Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Lamia Essemlali.
Bonjour Julien Vidal.
Bah oui, mais je dis toujours les noms de famille parce que c'est important de situer les gens et en plus avec une renommée qui fait que voilà, quand on dit ton nom de famille, ça te pose là. Je te souhaite la bienvenue en tout cas dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel moi j'ai l'habitude de rencontrer celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Cette année, le podcast, c'est très important pour moi, il est soutenu par la NEF qui est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Il y a une sorte de passage de relais qui fait du bien et qui me permet d'assurer sereinement ce travail. Toi, Lamia, tu es la présidente de Sea Shepherd France et aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous allons aborder tout un tas de sujets passionnants avec toi, notamment la question du militantisme, de la préservation du vivant. Plus largement, nous discuterons de l'importance de la radicalité, du bonheur dans l'action et de la place primordiale des océans pour notre avenir. Pour commencer, Lamia, je te pose la question que je pose à tout le monde. La première question, c'est: tu arrives dans une soirée, dans une rencontre où il y a des gens que tu ne connais pas et tout d'un coup, vous vous mettez à parler et arrive forcément, fatalement, cette première question qu'on pose à chaque fois. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça?
En général, je dis simplement que je travaille pour une ONG de défense de l'océan.
C'est aussi simple que ça?
Ouais.
Parce que du coup, ça génère plein d'autres questions, j'imagine, ensuite.
Ouais, moi, je rentre pas dans les détails si on m'en demande pas. Voilà, j'étale pas forcément ce que je fais si je sens pas qu'il y a un vrai intérêt et une curiosité en face.
Et ben ça tombe bien, aujourd'hui il y a un vrai intérêt et une curiosité en face parce qu'en fait je t'ai présenté comme présidente, tu es cofondatrice de Sea Shepherd en France. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais ça je trouve que c'est des termes un peu génériques et un peu creux, si je peux le dire comme ça. En fait, avec 2030 Glorieux, j'essaie d'ouvrir la porte des métiers de demain et je pense sincèrement que toi tu fais l'un des métiers qui va se généraliser demain. Mais si on devait le caractériser, si on devait le nommer, ce métier, comment tu le nommerais? Comment tu dirais à quoi ressemble ton travail en fait?
Moi, je pense que, enfin, je me définis surtout comme une activiste. C'est vrai que j'ai pas vraiment l'impression d'exercer un métier au sens où on l'entend habituellement. C'est une façon d'être en fait. Et j'ai l'impression d'être ce que je fais et de faire ce que je suis en fait. C'est un peu ouais, c'est pas forcément très classique. En fait, j'imaginais pas, si tu veux, quand j'étais plus jeune, qu'un jour je ferais ce métier-là, entre guillemets. Je savais même pas que ça existait, que c'était possible d'ailleurs. Donc, je sais pas. Ouais, c'est métier, j'ai l'impression que ça colle pas forcément à ce que je fais, parce qu'un métier, c'est un peu, enfin, c'est quelque chose que tu, c'est un savoir-faire que tu exerces dans un cadre donné, dans le cadre de ton travail. Et moi, c'est quelque chose qui déborde vraiment sur toute ma vie, quoi. Donc c'est quelque chose que voilà, que j'ai fait bénévolement pendant des années. C'est quelque chose que je fais, que je pense, que je suis, que enfin donc c'est même un peu vampirisant d'ailleurs. Hein. Il s'agit après de trouver un équilibre, mais donc ça transcende vraiment. Tous les aspects de ma vie et de mon quotidien. Donc, je trouve que la case de métier est trop étroite pour ce que je fais.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais t'es pas la première, Lamia, et je le vois d'ailleurs, c'est un peu un fil conducteur de toutes les personnes que j'interviewe qui, en fait, se sentent pas du tout représentées par cette case, comme tu le dis, assez étroite du métier, de la profession, puisqu'en fait, c'est devenu une pulsion de vie qui a pris une forme professionnelle. Et à l'inverse, toi, quand tu dis que c'est pas forcément un métier, je suis quand même assez persuadé que tu as, d'une certaine manière, les talents, les compétences, au-delà de l'énergie, de la volonté, qui te permettent d'assurer ce métier que tu fais actuellement, puisque tu es présidente. Mais présidente, ça veut dire plein de choses. J'imagine que bah forcément, tu portes tout le travail de plaidoyer. Donc là, il y a un travail et des compétences de communicante qui sont hyper importantes à avoir. J'imagine aussi que tu as un lien assez régulier avec l'équipe de Sea Shepherd France, mais aussi en fait de coordination au niveau international. Et donc là, il y a un travail de coordination, il y a un travail de gestion des salariés, des équipes bénévoles. Et puis, j'imagine aussi que de temps en temps, bah, tu dois quand même de temps en temps revenir sur le terrain, être en mission sur les bateaux. Et donc là, il y a aussi des compétences très techniques à avoir. Donc tout ça, ça fait tout un tas de casquettes.
Oui, mais
en
alors
fait,
pour moi, quand je dis que je ne considère pas ça comme un métier, ça ne veut pas dire que c'est forcément de l'amateurisme. Je pense que effectivement, il y a des compétences d'ordre professionnel, mais par professionnel j'entends ouais, compétent, qualifié, avec une certaine expérience, et pour autant ça reste quand même quelque chose qui à mon sens dépasse le métier. Mais effectivement, je fais exactement tout ce que tu viens de citer, et en plus de travaux d'études, d'élaboration de stratégies de campagne, d'identification de problématiques, d'enjeux sur lesquels il serait important que Sea Shepherd intervienne, beaucoup aussi de relationnel effectivement avec les équipes, et ça c'est super important, le terrain qui est en quelque sorte l'énergie vitale qui après permet aussi de continuer quand on est derrière un ordinateur, voilà, c'est hyper important. Et puis de parler finalement, parce qu'effectivement, je fais aussi beaucoup de communication par rapport à ce qu'on fait. C'est très important à mon sens de parler de ce qu'on connaît. Et je conçois pas trop de parler de campagnes, de missions, d'enjeux sur lesquels je me suis pas investie personnellement, pour lesquels je n'ai jamais été sur le terrain. Ça peut arriver sur certaines campagnes parce que Sea Shepherd aujourd'hui fait énormément de campagnes à l'international. Et évidemment, je suis pas présente sur chacune d'entre elles. Ce serait physiquement impossible, mais c'est important pour moi, en tout cas, d'être présente sur les campagnes que j'initie moi-même, sur lesquelles je travaille sur des stratégies, des campagnes où j'ai un rôle indispensable. Pour moi, c'est très important de pouvoir y être aussi sur l'aboutissement, c'est-à-dire le terrain.
C'est une question de légitimité évidente. Je suis quand même curieux, j'aimerais bien savoir comment se déroule la semaine type de Lamia Essemlali, même si je suis sûr que tu vas me dire que en fait, tu n'as jamais de semaine qui se ressemble. Mais si jamais tu devais répartir un peu ton temps de travail, ta charge de travail, comment tu t'en sors en sachant que je sais que tu es loin d'être aux 35 heures, on ne va pas se mentir. Hein.
Oui, bah, d'ailleurs, souvent, tu sais, j'ai des petits soucis. Ça m'est arrivé encore récemment, jour férié au mois de mai, où j'amène ma fille à l'école et je me retrouve devant le portail fermé parce que j'avais pas
un jour férié. Mais oui, qu'est-ce que c'est un jour férié?
Non, un jour férié, c'est très abstrait pour moi. Bon, et effectivement, on compte pas trop les heures. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il s'agit de trouver un équilibre aussi familial parce que voilà, j'ai l'enfant qui a besoin de sa maman, etc. Mais une semaine type, c'est oui, donc en fait c'est variable aussi en temps de campagne et en temps de entre campagne, mais sinon en gros c'est une alternance de divers rendez-vous, que ce soit des rendez-vous avec l'équipe, on en fait assez régulièrement au cours de la semaine, des interviews, des sessions de travail de fond. C'est particulièrement difficile d'ailleurs de trouver du temps pour le travail de fond parce qu'il y a beaucoup d'urgences à gérer, donc tout ce qui est répondre aux emails, aux coups de téléphone, gérer la logistique quotidienne, c'est très chronophage. Et en même temps, quand on est dans des phases de préparation de campagne, comme en ce moment, par exemple, notamment sur des campagnes, la campagne qu'on prépare contre le projet d'éolienne en mer à Saint-Brieuc, par exemple, là, il y a énormément de travail de bibliographie, de recherche, de discussion stratégique avec l'équipe. En plus, c'est un sujet particulièrement complexe, là, pour le coup. Et donc, ça, c'est du travail de fond. Ma frustration, elle peut être sur le fait que j'ai pas suffisamment de temps. En tout cas, je prends pas suffisamment de temps pour écrire, parce que j'adore écrire et j'aimerais beaucoup écrire un autre bouquin. J'ai plein d'idées, plein d'envie de partager certaines choses. Et j'arrive pas à trouver le temps de me poser, de m'extraire du quotidien pour pouvoir écrire. Et puis quand on est en campagne, là c'est en fait je fais des passages ponctuels sur les missions de plusieurs jours en fonction des disponibilités et des besoins de la mission.
Ouais. Il y a plein de gens qui connaissent Sea Shepherd et je pense que c'est même, ça fait partie de ces organisations à la renommée la plus puissante. Il y a vraiment une aura très particulière qui entoure vos activités. Il y a aussi une partie qui est presque un peu romantisée, je sais pas comment le dire comme ça, puisqu'on vous qualifie souvent de nouveaux pirates des mers. Comment tu le décrirais quand même en quelques mots si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas encore votre activité? Et puis en plus de ça, après, j'ai envie de te questionner sur l'intention qu'il y a derrière, parce qu'on se retrouve beaucoup sur ça, mais je t'en dirai plus tout à l'heure.
Ouais, alors c'est vrai, je pense que ce qui interpelle beaucoup avec Sea Shepherd, c'est que c'est une organisation qui, entre guillemets, va au charbon et vraiment sur le terrain, fait des choses extrêmement concrètes et qui sortent de l'ordinaire. Moi, c'est ce qui m'a tout de suite attiré d'ailleurs, hein, quand j'ai rencontré le capitaine Paul Watson à Paris, c'est qu'il faisait des choses qui, a priori, m'auraient semblé impossibles, ou en tout cas dont la société nous dit que c'est impossible. C'est une organisation qui, même, on en parle souvent au niveau de nos équipes, à titre personnel, qui nous pousse à repousser nos limites, qui pousse au dépassement de soi. Et humainement, c'est extrêmement extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. Et pour ce qui est du grand public et la perception en fait du grand public de Sea Shepherd, je pense qu'il y a une phrase qui résume pas mal. Je pense que ce que ça peut renvoyer, c'est Paul encore qui disait que une baleine qui se fait harponner, ça n'est pas une histoire, mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, ça devient une histoire. Là, ça interpelle les gens de voir qu'il y en a qui sont prêts à donner autant, à potentiellement risquer leur vie pour défendre et protéger l'océan. Ça interpelle et ça peut toucher des gens qui, a priori, auraient été assez hermétiques au sujet ou en tout cas indifférents.
Là, tu viens de le dire, en fait, en filigrane, souvent dans les associations écologiques, on est contre quelque chose. On est contre le nucléaire, on est contre, là, tu en parlais tout à l'heure, on est contre les éoliennes, on est contre plein de choses. Et vous êtes pour la préservation des océans, vous êtes pour la préservation des espèces animales, vous êtes pour vraiment un engagement qui permet de susciter du bonheur et de voilà, libérer ses passions. Comment tu expliques ce paradigme? Comment tu arrives aussi à marcher sur cette ligne de crête?
En fait, nous, on est, on est au service de l'océan, et donc on défend, on protège, mais en même temps... J'en parlais récemment avec quelqu'un de l'équipe, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup utiliser ce terme de défendre et de protéger, alors qu'en réalité, l'océan, la nature en général, n'a pas forcément besoin qu'on la protège, il se débrouille très bien sans nous. Finalement, ce qu'on fait, c'est tenter de l'épargner. Donc on se bat finalement, parce que c'est un vrai combat, pour que notre espèce épargne l'océan, et donc c'est défendre la vie finalement, et c'est en ça que c'est extrêmement positif parce que finalement il n'y a pas de cause plus importante que la vie elle-même, et par là j'entends la vie sous toutes ses formes et au-delà des limites de notre seule espèce, hein, c'est aussi ça qui nous anime, mais notre espèce aussi, hein, c'est inclusif, c'est pas exclusif, mais en même temps c'est extrêmement positif comme tu dis, mais ça induit aussi de s'opposer à des forces de destruction qui sont extrêmement fortes, et du coup il y a quand même une opposition, il y a quand même un contre, il y a une lutte contre la surpêche, contre la chasse baleinière, contre la pollution, mais c'est lutter contre pour sauver, pour épargner, et donc le but ultime il est effectivement extrêmement extrêmement positif, mais ça fait des vagues, hein, sans mauvais jeu de mots, parce que ne serait-ce que, tu vois, on est une des rares, voire une des seules ONG environnementales à clairement aborder la question de la consommation de poissons, par exemple, et à dire que voilà, une planète avec 7 milliards d'êtres humains qui mangent de la viande et du poisson, ça n'est pas jouable. Ça, c'est une prise de position qui est à notre sens logique et qu'on explique d'un point de vue extrêmement rationnel, et en même temps c'est une prise de position qui est pas forcément simple, c'est pas la plus facile, parce que forcément ça peut braquer les gens. Il y a un excellent documentaire sur Netflix là qui s'appelle Seaspiracy, qui aborde justement cette question là, la question de la surpêche et donc directement la consommation de poissons. Et on voit bien dans le documentaire, parce que le réalisateur interviewe plusieurs ONG de protection de l'océan, Sea Shepherd est la seule à dire qu'il faut arrêter de manger du poisson.
Mais comment tu l'expliques ça justement ? Comment tu l'expliques ? Est-ce que c'est cette radicalité, cette exigence, cette ambition qui vous caractérise et qui fait que du coup vous poussez la démarche jusqu'au bout ? Ou est-ce que c'est même un peu d'une certaine manière faire preuve de présomption d'intelligence chez l'autre et notamment chez le grand public pour leur dire en fait on vous prend pas pour des enfants et on veut pas la facilité du mensonge, on préfère l'exigence de la vérité ?
Non, il n'y a pas vraiment de calcul par rapport à la façon dont on s'adresse aux gens. Il y a juste un renoncement à faire l'unanimité. C'est-à-dire que voilà, on sait que certaines choses vont nous couper d'un certain public qui sera réfractaire à nos propos ou qui se sentira même. Il y a parfois des réactions agressive, hein, par rapport à ce postulat qui est de dire qu'il faut drastiquement réduire sa consommation d'animaux, mais en même temps c'est pas grave, hein. Nous on dit ce qui nous semble être logique, sans faux semblant. Si on a moins de donateurs, moins de sympathisants parce qu'on tient un discours qui déplaît mais qui nous semble être juste, qu'il en soit ainsi. Donc on renonce à faire l'unanimité, on renonce à avoir le plus de donateurs possible et à avoir des discours qui soient les plus consensuels possibles. C'est pas grave, on préfère avoir moins de sympathisants mais des gens qui comprennent notre discours ou en tout cas qui le respectent. Parce qu'après, dans nos sympathisants, attention, hein, tout le monde n'est pas vegan. Même dans les équipes, tout le monde n'est pas vegan. Enfin, les missions sont vegan, hein, donc tous les bateaux sont vegan, etc. Les missions sont vegan. Mais il y a des gens qui nous rejoignent et qui ne sont pas vegan. Moi-même, j'étais pas du tout vegan quand j'ai rejoint Sea Shepherd il y a 15 ans. Mais par contre, c'est une chose que de ne pas franchir le pas, mais au moins de comprendre la démarche, d'y réfléchir, d'essayer de réduire son impact, ça me semble être le minimum vital, c'est fondamental. Voilà, on se coupera forcément de ceux qui prennent pour une agression le simple fait de dire que nos bateaux sont véganes ou qu'on est trop nombreux pour manger de la viande et du poisson.
Ouais, c'est réussir à dépasser le statu quo, le consensus mou, et ça, Sea Shepherd, ça permet de se repositionner, et c'est rien que ça... fondamentale. Lamia, on a déjà discuté depuis 20 minutes sur tous ces sujets qui sont passionnants. Moi, j'ai envie de t'entendre sur les 2030 glorieuses, sur à quoi ressemblera une société durable et solidaire où justement, on aura réussi à reprendre notre place parmi le vivant et réduire au maximum cet impact. Peut-être même avoir un impact positif. J'ai envie de t'entendre aussi à ce sujet. Et avant ça, on marque toujours une pause qui est en fait un cadeau que nous fait l'invité à travers une bulle d'inspiration qu'il ramène de la littérature. Toi, tu es venu avec un passage que tu vas nous lire. Lequel est-ce ?
Alors, c'est un passage du livre de Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le 21e siècle. C'est pas forcément inspirant, mais à mon sens, il met le doigt sur une difficulté essentielle qu'il nous convient de dépasser pour réussir, entre guillemets, à sauver le 21e siècle. Donc, je lis en fait le début de l'introduction. Dans un monde inondé d'informations sans pertinence, le pouvoir appartient à la clarté. En théorie, chacun peut prendre part au débat sur l'avenir de l'humanité, mais il n'est pas si facile de garder une vision claire. Souvent, nous ne nous apercevons même pas qu'un débat est en cours et ignorons quelles sont les questions clés. Des milliards d'entre nous ne peuvent guère se payer le luxe d'enquêter, car nous avons des choses plus pressantes à faire, aller au travail, nous occuper de nos enfants ou prendre soin de nos vieux parents. L'histoire, hélas, ne vous fera aucune fleur. Si l'histoire de l'humanité se décide en votre absence, parce que vous êtes trop occupé à nourrir et habiller vos enfants, ni eux, ni vous n'échapperont aux conséquences. C'est très injuste, mais qui a dit que l'histoire était juste ? Historien, je n'ai ni vivre ni vêtements à distribuer. En revanche, je puis essayer d'apporter un peu de clarté, et ce faisant, aider à aplanir le terrain de jeu global. Si cela donne ne serait-ce qu'à une poignée de gens supplémentaires le moyen de prendre part au débat sur l'avenir de notre espèce, j'aurais fait mon travail. Dans mon premier livre, Sapiens, j'ai survolé le passé de l'homme, examinant comment un singe insignifiant est devenu le maître de la planète Terre. Homo Deus, mon deuxième livre, explore l'avenir de la vie à long terme, envisageant comment les humains pourraient finalement devenir des dieux et quelle pourrait être la destinée ultime de l'intelligence et de la conscience. Dans ce livre aussi, j'entends faire un zoom sur l'ici et maintenant. Je me concentre sur les affaires courantes et l'avenir immédiat des sociétés humaines. Que se passe-t-il actuellement ? Quels sont les plus grands défis et choix du jour ? À quoi devrions-nous prêter attention ? Que devons-nous enseigner à nos enfants ? Bien entendu, qui dit 7 milliards d'habitants dit 7 milliards d'ordres du jour, et pouvoir prendre du recul est un luxe relativement rare. Une mère célibataire qui se bat pour élever 2 enfants dans un bidonville de Bombay ne pense qu'à leur prochain repas. Les réfugiés entassés dans une embarcation au milieu de la Méditerranée scrutent l'horizon, essayant d'apercevoir la Terre, et un moribond dans un hôpital surpeuplé de Londres rassemble ses dernières forces pour respirer encore un peu. Tous ont des problèmes autrement plus urgents que le réchauffement climatique ou la crise de la démocratie libérale. Aucun livre ne saurait rendre justice à tout cela, et je n'ai pas de leçons à donner aux gens qui sont dans de telles situations. Je puis seulement espérer apprendre d'eux. Mon ordre du jour est ici global, j'examine les grandes forces qui façonnent les sociétés à travers le monde et sont susceptibles d'influencer l'avenir de notre planète dans son ensemble. Le changement climatique peut bien sortir des préoccupations des gens pris par des urgences vitales, mais il pourrait finir par rendre inhabitables les bidonvilles de Bombay, envoyer d'énormes nouvelles vagues de réfugiés à travers la Méditerranée et déboucher sur une crise mondiale du système de santé.
Pourquoi tu voulais nous lire ce morceau, Lamia, ce passage ?
Parce qu'à mon sens, il met le doigt sur quelque chose de très important et qui pose problème, justement, c'est le fait qu'on est tous très pris dans notre quotidien et on ne voit pas j'ai même pas envie de dire l'effondrement à venir, parce qu'on est déjà dans un monde qui est en train de s'effondrer. Et du coup, on n'agit pas forcément comme il se devrait. Alors c'est vrai que en fonction des gens, c'est plus ou moins facile. Mais je pense que si tous les gens qui peuvent agir, qui peuvent s'investir, qui peuvent s'engager, qui peuvent changer ou aider à faire changer le monde, si tout cela le faisait, ça serait sans doute suffisant déjà pour déplacer le curseur, changer de trajectoire, essayer d'influer un peu notre destin.
Absolument. Et tu disais aussi que pour toi, trouver justement ce passage vers les mondes de demain, c'était pas évident, hein?
Ouais, j'ai vraiment eu du mal à trouver un passage qui décrive le monde de demain que dans lequel j'aimerais que ma fille grandisse, par exemple. C'est compliqué. En même temps, je sais pas. À mon sens, ça serait un monde où on se resitue à notre juste place. Puisque tout découle de ça, finalement.
Mais c'est quand même fou, parce que là, du coup, on va en reparler des 2030 glorieuses. J'ai vraiment envie de t'entendre à ce sujet, mais là, quand même, c'est quand même fou de se dire que si je t'avais posé la question de lis-moi le passage du monde que tu ne veux pas voir, tu serais allé dans les dizaines de romans dystopiques que tu as chez toi, j'en suis sûr, même sans t'en rendre compte, où en fait, on nous livre ces histoires de catastrophes, de mondes tout bétonisés, d'humanité qui est en train de disparaître. Ça existe et c'est même assez normalisé. Alors qu'en fait, des projections vers un monde où on vivrait mieux, c'est hyper rare.
Oui, hein, on a du mal à s'imaginer dans un monde apaisé, harmonieux, où on vive enfin en paix avec les autres, avec nous-mêmes. J'ai l'impression qu'on a quand même un esprit assez torturé et du coup, on a même du mal à l'imaginer, à l'écrire.
Et notre société nous a un peu piégés, c'est le sentiment en tout cas que je ressens, et c'est pour ça que j'ai été très heureux de créer 2030 Glorieuses. On nous fait croire que justement, imaginer un avenir durable, radieux, épanouissant, apaisant, comme tu le disais, c'est faire preuve de naïveté, faire preuve de bisounourserie et de pas être à la hauteur de l'urgence du présent, alors qu'au contraire, pour moi, imaginer et donner de la forme à ces caps, c'est raconter cette histoire qui va nous mettre en mouvement et nous permettre d'être vraiment ambitieux dans notre action du présent. Et ça dit quelque chose de, pour l'instant, notre incapacité à lever la tête. On est donc en 2030 glorieuse. Là, les 2030 glorieuses, c'est dans 10 ans, donc c'est pas dans très longtemps. Et à la fois, l'humanité, elle est capable de faire des changements extraordinaires en très peu de temps. On vient de le voir et on vient de le vivre ces dernières années avec une contrainte qui nous a amené à radicalement transformer nos modes de vie. 2030 glorieux, c'est pas une situation naïve, hein, où tout est parfait. Il y a encore plein de choses à améliorer. Il y a encore plein de choses sur lesquelles on doit mettre de l'énergie, contre lesquelles on doit lutter. Mais c'est quand même un monde où on a réussi à changer la boussole. En 2021, notre boussole, c'était la croissance à tout prix, l'exploitation du vivant sans considération. En 2030 glorieuse, au contraire, on a réussi à reprendre notre place parmi le vivant et à vouloir contribuer à quelque chose qui nous dépasse. Toi, dans ce monde en 2030 glorieuse que tu vas essayer de décrire du mieux que tu peux pour les personnes qui nous écoutent et qui sont, elles, malheureusement, tristement coincées en 2021, qu'est-ce que tu vois en premier?
Une société plus biocentrique où l'homme reprend sa juste place au sein du vivant. À mon sens, c'est, de toute façon, on n'y arrivera pas sans en passer par là. C'est parce que notre pire ennemi, c'est finalement nous-mêmes et c'est notre arrogance. Comme tu dis, exploiter le vivant jusqu'au bout, en fait, finalement sacrifier les intérêts essentiels des autres espèces pour satisfaire nos intérêts superflus ou même nos caprices. Hein. Pour moi, c'est les années qui nous séparent justement de ces 30 glorieuses, elles sont déterminantes, puisque soit on prend ce chemin-là, cette tangente-là, soit c'est littéralement l'enfer sur Terre qui nous attend. Donc voilà, on est une génération cruciale, puisque je pense qu'on a été à peu près au bout de ce qu'on pouvait faire sans subir des conséquences universelles et irréversibles, puisque les conséquences, elles sont déjà là pour beaucoup de gens. Nous, on fait partie des privilégiés pour qui le couperet tombe un peu plus tard. Voilà, on a une seule planète, donc à part ceux qui pensent encore qu'on va pouvoir s'échapper sur Mars, on n'aura nul endroit où fuir.
Et donc justement, on est en 2030 glorieuse, Lamia, et ce que j'entends quand même avec tes premiers mots, c'est que là où il y a 10 ans en arrière, on insistait beaucoup sur les solutions technologiques, les changements structurels d'organisation, etc., etc., en fait, pour atteindre les 2030 glorieuses, ce qu'on a aussi beaucoup utilisé comme levier, c'est des leviers philosophiques, de questionner la place de l'être humain sur Terre et de reconsidérer le reste du vivant pour déjà nous remettre un peu d'humilité dans nos vies, dans notre humanité, mais aussi revaloriser radicalement tout ce qui nous entoure et ce qui était un peu pris comme un dû, comme une évidence.
Oui, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une dimension philosophique, éthique, qui est qu'on partage cette planète quand même avec plein d'autres espèces et qu'elles étaient là pour beaucoup avant nous. Il y en a pas mal qu'on a déjà poussé vers la sortie. Donc ça, d'un point de vue déjà... éthique, morale, c'est problématique, et il faut qu'on en prenne conscience rapidement. Et puis il y a aussi un positionnement plus utilitariste qui découle en fait de la compréhension du monde dans lequel on vit et de cette interdépendance entre les espèces, et surtout de notre dépendance vitale, fondamentale, envers le vivant, et notamment envers des espèces qu'on méprise, hein, comme les vers de terre, les abeilles et l'océan notamment, hein, l'océan sans lequel on disparaîtra tous, l'océan qui est notre berceau et qui sera notre tombeau si on ne décide pas de l'épargner. Donc voilà, il y a une dimension morale et philosophique et une dimension très cartésienne et très rationnelle et très utilitariste. Il faut qu'on épargne le vivant si on veut survivre.
Et justement, à quoi il ressemble, Lamia, cet océan en 2030 glorieuse, un océan où justement on aurait réussi à alléger drastiquement la pression humaine? Est-ce que tu peux nous donner un peu des couleurs à voir, des textures à imaginer qu'on toucherait?
Eh bien, ce serait peut-être un océan qui renaîtrait de ses cendres, puisque aujourd'hui, l'océan tel qu'on le connaît n'est déjà plus que l'ombre de ce qu'il était. Ce qu'on essaye de sauver, d'épargner, c'est le dernier bout de la peau de chagrin. En fait, il suffit de lire un peu les récits historiques des navigateurs des siècles derniers pour se rendre compte à quel point on a déjà été très très loin dans la destruction, puisque quand on lit ces écrits-là, on voit par exemple que sur la façade atlantique française, il fallait s'arrêter, enfin les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours pour laisser passer les baleines. Quand on vivait près de la côte, le souffle des baleines empêchait littéralement les gens de dormir la nuit, tellement elles étaient nombreuses et bruyantes. Et aujourd'hui, quand on a une baleine qui s'aventure près de la côte, on a un article dans la presse locale. Parce que événement insolite, enfin c'est dramatique et c'est d'une tristesse. Et en même temps, ce qui est dramatique aussi, c'est qu'on n'a pas cette mémoire-là, donc on ne porte pas le deuil de tout ce qu'on a détruit. Donc des 30 glorieuses avec une humanité qui aurait évolué dans le bon sens permettrait justement à l'océan de se relever un peu de tout ça. Il y a des espèces qui sont disparues, qui ne reviendront jamais, mais l'océan a une résilience quand même importante, et même s'il est très très tard, il n'est pas trop tard, et on peut, en relâchant la pression tout simplement, et surtout la pression de pêche et la pollution, tenter de retrouver un peu de ce qu'était cet océan
plein de nous. Est-ce qu'il y a eu des exemples, Lamia, de cette résilience dont tu parles, de la capacité de régénération des écosystèmes avec des endroits qui ont été d'un coup préservés parce que transformés en zone protégée, par exemple, et qui montrent en quelques années que vraiment il peut y avoir des transformations, pas miracles, mais presque?
Oui, alors en fait, le problème, c'est qu'il y a très très peu de zones vraiment protégées de la pêche. Par exemple, en France, on a officiellement, sur le papier, on a 20% d'aires marines protégées, et dans les faits, on a à peine 1% de zones protégées de la pêche. Au niveau mondial, on est à moins de 1% de l'océan qui est protégé de la pêche, mais sur des très petite surface. Bon, nous, on a des exemples, par exemple, en Afrique de l'Ouest, notamment au Libéria, où la zone côtière était complètement pillée par les navires de pêche étrangers et industriels, et où les petits pêcheurs locaux étaient à l'agonie. Et là, ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille au Libéria pour aider à lutter contre la surpêche et la pêche illégale. Et les petits pêcheurs locaux disent qu'ils voient déjà revenir le poisson. Et donc, il y a un retour de la vie. Donc, c'est possible à condition que des seuils de non-retour ne soient pas atteints. Et c'est ça qui est dramatique aussi, notamment dans l'océan, c'est qu'il y a des seuils de non-retour qui font que même si on arrête la pression, il y a des cycles d'extinction qui sont enclenchés et les espèces disparaissent de toute façon. C'est ce qui explique notamment le fait que la morue à Terre-Neuve, par exemple, qui a nourri des milliers de personnes pendant des siècles, se soit effondrée. Il y a un moratoire en 1992, et malgré ce moratoire depuis 1992, la morue n'est pas revenue.
Et si jamais, du coup, on arrive vraiment à endiguer les choses, je reste persuadé, malgré ces constats terribles que tu nous livres, quels auraient été, selon toi, les leviers quels ont été, même puisqu'on est en 2030 glorieuse et je m'y perds, pardon, quels ont été les leviers qui ont vraiment réussi à faire la différence? Et est-ce que c'est un levier pédagogique où on a réussi à éduquer les citoyens à différents niveaux sur l'impact, sur l'importance, sur les changements de consommation à mener, etc., etc. Et ou est-ce que c'est un levier plutôt de régulation, d'élaboration de nouvelles lois pour vraiment aller limiter, voire complètement annihiler la destruction qui est menée par celles et ceux qui, et d'ailleurs c'est plus souvent ceux qui pillent le vivant et qui pillaient le vivant il y a 10 ans?
Bah, tu sais, à mon sens, c'est comme avec la sécurité routière. Hein. C'est-à-dire qu'on ne dit pas dans la sécurité routière, on parle de vie. Hein, et là, l'écologie, pour le coup, on parle de la plus grande cause humanitaire au monde, hein, puisque c'est 7 milliards d'êtres humains qui dépendent de notre capacité à préserver cette planète. Dans la sécurité routière, on ne dit pas simplement, bon, bah, on va faire de la pédagogie, on va expliquer aux gens qu'il ne faut pas rouler trop vite, qu'il faut laisser la priorité à droite. Oui, on leur explique, on leur dit, on passe le permis de conduire, le code de la route, etc. Et en même temps, on prévoit un système de contrôle, un système d'amende et de répression pour les contrevenants. Donc je pense que c'est important de faire voter des lois qui aient du sens. Aujourd'hui, on a des lois extrêmement laxistes qui sont presque des pousses au crime quand il s'agit d'atteinte aux vivants et à la biodiversité. Enfin, c'est vraiment pas du tout considéré comme un enjeu majeur. Il y a sans doute des défauts aussi d'éducation. Tout le monde devrait comprendre et avoir les outils pour comprendre à quel point on est dépendant du vivant et à quel point nos modes de vie influent dessus. Donc déjà comprendre, parce que quand on comprend, on est aussi plus enclin à respecter. Hein, il faut y croire et comprendre pourquoi on fait les choses. Et en même temps, on sait que de toute façon, il y en aura toujours qui seront dans l'indifférence ou dans l'égoïsme ou dans la cupidité, parce que voilà, il y a aussi des gens qui sont pas du tout dans le long terme, qui sont pas dans le partage, et il faut mettre en place des lois, des contrôles et des sanctions pour que pour que certaines règles élémentaires, des règles dont nous dépendons tous, soient respectées par tous. Sinon, on n'y arrivera pas.
C'est pour ça que même en 2030 glorieuse, Sea Shepherd continue d'exister.
Oh là, ben, j'adorerais moi que qu'on se soit auto-dissous faute de travail. ça serait génial. Moi, j'ai plein d'idées de reconversion, mais malheureusement, je pense pas qu'en 2030, pendant les 2030 glorieuses, on aura, tous renoué ce lien avec l'océan. On aura tous compris que, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, les poissons ont un rôle bien plus important dans l'océan à faire fonctionner. Cette machine de régulation du climat dont on dépend que dans les sushis qu'on peut se commander au sushi bar du coin. Non, et puis quand je vois aussi à quel point ce qui se passe en mer est loin des yeux, loin des consciences, à quel point il y a un sentiment aussi d'impunité, de manque de respect même du vivant de la part de certains pêcheurs, pas tous, mais quand même, on part de très loin. On a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et en même temps, on a peu de temps. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'on est déjà très, très avancé dans l'histoire de la destruction. Et donc, on a plus beaucoup de temps. Et le temps que les prises de conscience se fassent et qu'elles se traduisent en évolution aussi, en action, c'est un gros challenge, c'est un très gros défi. Donc voilà, ouais, je pense que malheureusement, Sea Shepherd sera encore d'une nécessité vitale dans les 30 glorieuses.
J'ai l'impression que Sea Shepherd sera d'une nécessité vitale, quoi qu'il arrive, quel que soit l'évolution de l'humanité, parce que comme tu le dis, il y a la préservation, il y a réussir à faire en sorte de faire respecter ces règles, et puis peut-être un jour, Sea Shepherd aura l'essentiel de ses activités dans la revalorisation, dans l'éducation, dans la transmission de ces histoires. Peut-être qu'un jour tu arriveras à avoir plus de temps pour écrire tes histoires. C'est peut-être ce que tu feras en 2030 glorieuse, ou si tu te projettes un peu, tu t'imagines dans un monde complètement différent, avec une activité complètement différente.
Non, alors moi, je n'imagine pas ma vie, en fait, sans Sea Shepherd. C'est vrai que bon, ça fait 15 ans et c'est vrai que je me vois pas à la retraite, je ne me vois pas faire autre chose. On a un petit adage, souvent, dans nos équipes, où on se dit qu'on avait une vie avant Sea Shepherd, mais qu'on ne retrouve plus la clé. Non, moi, a priori, je me vois... Je me vois toujours engagée au sein de Sea Shepherd sur des campagnes, la continuité des campagnes actuelles, de nouvelles missions. J'espère qu'on sera encore plus nombreux et qu'on pourra agir sur encore plus de fronts et effectivement développer tout un tas de choses. C'est vrai que par exemple, quand on a commencé, bon, on avait un seul navire, on faisait une à deux missions par an et c'était quasi exclusivement des campagnes de terrain. Aujourd'hui, on a développé pas mal de choses, notamment au niveau de l'éducation. On fait pas mal de documentaires. On a tout un programme qui s'appelle Sea Shepherd Kids qui s'adresse aux enfants, et donc on intervient de plus en plus dans les écoles, dans les centres de loisirs. On sort des bouquins, parce que même si moi j'ai pas eu le temps d'en écrire d'autres, on en a sorti plusieurs, et j'espère que oui, dans les 30 glorieuses, je pourrais toujours répartir mon temps comme je le fais à l'heure actuelle entre le terrain, la stratégie de campagne et si possible un peu plus d'écriture, parce que je remarque aussi que c'est un outil très puissant de partage, et ça permet d'embarquer avec nous les gens d'une façon très différente et peut-être un peu plus authentique et intimiste que peut le faire un documentaire ou des articles de presse, de journalistes. Là, c'est vraiment rédiger les choses à la façon d'un journal, donc donner des détails aussi du quotidien qui sont qui permettent de toucher du doigt cette réalité qu'on vit sur les campagnes de Sea Shepherd, et du coup de rendre tout ça beaucoup plus palpable et plus concret pour les gens. à la fois en termes d'aventure humaine et en même temps sur les enjeux directs sur lesquels on travaille. Mais du coup, ça donne un côté peut-être un peu plus universel à ce qu'on fait, et ça permet peut-être de toucher des gens qui, comme je disais, a priori, sont pas forcément passionnés par la question. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'en profite pour dire qu'on travaille avec Jacques Perrin, qui est le producteur du film, le réalisateur du film Océan. On travaille un film sur la vie de Paul Watson. Ça sera un film, un biopic, hein, donc avec acteurs, etc. Et donc moi, je travaille sur le scénario que j'ai coécrit avec un scénariste qui s'appelle Thomas Bidguin. Et du coup, ça, c'est vraiment le film retrace les débuts de Paul Watson et de Sea Shepherd. Rien n'est inventé. C'est vraiment que des choses, des faits réels. Et en même temps, il y a un côté extrêmement comment dire, romantique. Ça pourrait être un film de fiction tellement la réalité en fait dépasse la fiction. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui s'intéressent à Sea Shepherd, voire même qui sont engagés dans Sea Shepherd et qui sont à milieu de connaître tous ces détails et tous ces épisodes de la vie de Paul Watson qui sont la genèse de Sea Shepherd. Et je pense que ce film permettra vraiment de toucher les gens d'une façon inédite. Et ça sera sans doute un des meilleurs outils d'ambassadeur de la cause de la protection de l'océan.
Tu viens de nous faire le meilleur teasing du monde. Quand est-ce qu'il sort, tu sais? Vous avez une date déjà?
Alors, le scénario là est en cours de traduction parce qu'il a été écrit. Alors, l'original est écrit en français, donc il est en train d'être traduit en anglais. Et l'objectif là de l'équipe de production, c'est de pouvoir commencer le tournage début 2022 pour une sortie en salle, si tout va bien, fin 2022.
Trop bien. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Et pour les personnes un peu impatientes et qui aimeraient rentrer justement dans ces détails, dans l'histoire de Sea Shepherd, dans l'histoire de Paul Watson, je peux que recommander ton livre, Lamia, Paul Watson, enfin Sea Shepherd, le combat d'une vie. Et en plus, j'ai eu l'honneur de le préfacer sur la version poche d'HarperCollins et l'avoir lu, l'avoir découvert. Moi aussi, ça m'a appris beaucoup de choses. Et effectivement, tu as raison. Le livre, comme le podcast d'ailleurs, je pense que ce sont des véhicules qui sont assez extraordinaires parce qu'en fait ils laissent la personne qui les a dans les mains ou dans les oreilles actrice plutôt que spectatrice. Donc il y a un vrai pouvoir là-dessus d'expérimentation par la lecture ou par l'écoute. La mienne, on vient de passer 45 minutes ensemble, c'était véritablement passionnant, même si là effectivement je savais que le travail de partir en 2030 glorieuse elle est difficile tant la situation est dramatique, et à la fois on a déjà dit beaucoup de choses et j'entends quand même l'espoir dans ton combat et dans ton énergie à vouloir participer à ces luttes qui sans doute t'accompagneront toute ta vie. Pour les personnes qui nous ont écouté, Lamia, c'est ma dernière question. La route, elle est longue hein, quand même avant les 2030 glorieuses. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont avec nous là, qui se disent mais oui, mais allez, moi aussi, je veux y aller, je veux agir. Et forcément, la possibilité de rejoindre Sea Shepherd, de découvrir vos actions est évidente. Mais qu'est-ce que tu recommanderais comme premier pas pour continuer à marcher sur cette route?
Alors déjà, je recommanderais vraiment de se déconnecter des bonnes ou des mauvaises nouvelles, de l'optimisme ou du pessimisme, d'agir simplement parce qu'on ressent en soi le besoin d'agir et que c'est en fait le meilleur remède à la dépression, parce que effectivement, quand on regarde autour de nous, il y a beaucoup de choses très inquiétantes sur l'avenir. Et on ne peut, je pense, résister à ça et rester sain d'esprit que si... On devient soi-même un acteur et qu'on agit. L'action, c'est vraiment ce qui empêche finalement de devenir fou quand on prend conscience du chaos ambiant. Et donc, moi, je recommanderais simplement à chacun de s'écouter, de ne pas sous-estimer son pouvoir individuel et l'inspiration qu'il peut aussi dont il doit se nourrir et qu'il peut aussi véhiculer, tout en se déconnectant du résultat. C'est-à-dire que on y arrivera peut-être. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas, à mon sens, en tout cas, ce qui est fondamental, c'est de pouvoir se retourner à un moment donné et de se dire que on a fait tout ce qu'on a pu. ne pas avoir de regrets et vivre en adéquation avec, avec ce qui nous paraît juste, à la fois pour le monde et pour soi-même aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de vivre en permanence en pleine dissonance cognitive et d'avoir le sentiment profond de faire partie du problème et de ne pas contribuer à la solution.
Merci Lamia.
Merci Julien.
Ça y est, cet épisode avec Lamia et Semlali vient de se terminer. Je le savais que ça allait être dur, hein. Je savais que le constat sur la dégradation des océans est terrible. Je savais que le fait voilà, que Lamia elle soit impliquée dans toutes ses actions avec Sea Shepherd France, qu'elle soit aussi très présente sur le terrain, ça allait rendre ses propos forcément très forts, mais aussi très durs à entendre. Et c'était aussi attendu, mettre encore plus de difficultés déjà dans ce pessimisme français, dans cette incapacité à se projeter dans les 2030 glorieuses. Donc là, effectivement, j'ai l'impression que ça a été dur, hein, d'arriver à vraiment imaginer à quoi ressembleraient ces 2030 glorieuses si jamais, notamment, les océans arrivaient à respirer un peu et à être allégés de la prédation et de l'empreinte négative de l'être humain aux quatre coins de la Terre. Et puis aussi, ce que j'ai beaucoup entendu avec l'expérience de Lamia, c'est que, en fait, et c'est aussi ce que je touche du doigt à travers tous les épisodes des 2030 Glorieuses, c'est qu'en fait, les gens que j'interviewe, elles font plus vraiment des métiers, elles ont plus vraiment une profession, c'est leur pulsion de vie qui a réussi à trouver un écho et une couleur et une forme dans effectivement leur quotidien professionnel, puisque rémunérateur, mais qui a en fait dépassé largement les 35 heures, le cadre d'un bureau, et qui fait que ces gens, ils se sentent pleinement vivants et pleinement au bon endroit, au bon moment, en train de faire ce qui les importe vraiment. Voilà, Lamia, elle l'incarne, et puis j'ai bien aimé sa réponse sur le fait qu'elle s'imaginait même pas prendre de retraite, et que Sea Shepherd, d'une certaine manière, c'était toute sa vie. Avec, aussi, elle l'a dit, hein, une difficulté à réussir à garder sa vie personnelle, la futilité aussi de l'ennui et d'autres moments au cœur de son quotidien pour maintenir un équilibre qui nous permette de durer sur le très 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 long terme. Voilà. Je suis persuadé que, comme moi, cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé vraiment passionnant et j'ai hâte de vous faire découvrir de nouveaux parcours inspirants dans les prochains épisodes de 2030 Glorieuses. Allez, salut, à très bientôt. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !